Fréquence protestante. La valeur de l'homme. Emmanuel Taïeb.
La famille comme lieu de mémoire. Bonjour à tous et toutes, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de La Valeur de l'Homme sur Fréquence Protestante en compagnie de mon invité Audrey Célestine. Audrey Célestine qui vient de retracer dans un livre passionnant et touchant la saga de sa famille et de celle de son conjoint sur trois générations. L'histoire d'une famille donc entre la Martinique et Marseille, entre l'Espagne et l'Algérie jusqu'à Sciences Po Paris pour la génération qui a pu faire des études dans la capitale. Une galerie de personnages, les aïeux, que l'auteur a connus directement ou dont on lui a raconté la vie. À l'échelle du siècle, s'entremêlent des destins heurtés, des ruptures biographiques, des exils économiques, du courage, des guerres, la fin de l'empire colonial français, des métissages et parfois du racisme. Comme le veut la formule, la petite histoire croise la grande. Mais de quoi est faite cette petite histoire? Elle est tissée de gens et de lieux. Peut-être que ces lieux sont centraux dans l'identité, davantage même que la culture ou la religion. Lieu du départ et de l'arrivée, mais aussi mémoire des lieux que la famille entretient. À son tour, la généalogie qu'entreprend Audrey Célestine fait de la famille un lieu de mémoire, où le passé est rendu présent par le biais du témoignage et de la narration. Entre les lignes de ce récit familial s'écrit aussi un essai de sciences sociales sur l'identité et les essentialisations identitaires imposées ou revendiquées. Il montre que toute identité individuelle relève d'une généalogie complexe et accidentée. Se forger une identité, c'est aussi intérioriser comment « nous pensent les autres », par exemple quand ils assignent à une origine, à une race, entre guillemets, ou à une religion qui est pourtant loin de dire l'individu subjectivement. Être français ne relève donc en rien d'une dynamique linéaire dont personne ne peut se prévaloir. Je cite Audrey Célestine, « Je veux donner à voir, dit-elle, les négociations permanentes pour trouver un sens à ce que l'on est et ce que sont les autres. » Bonjour Audrey Célestine.
Bonjour.
Audrey Célestine, vous êtes politiste, maître de conférences en études américaines à l'Université de Lille et membre de l'Institut universitaire de France. Vous êtes spécialiste des questions identitaires, en particulier dans les Amériques. Vous travaillez sur le racisme, l'antiracisme et plus récemment sur le mouvement Black Lives Matter. Je signale la parution en juillet d'un livre intitulé « La fabrique des identités, l'encadrement politique des minorités caribéennes à Paris et New York ». C'est aux éditions Cartala, mais aujourd'hui je vous reçois à propos de votre autre livre publié en mai qui s'intitule « Une famille française ». Française, des Antilles à Dunkerque, en passant par l'Algérie, et ça a été publié cette année donc aux éditions Textuelles. Alors Audrey Célestine, comment vous est venue l'idée ou peut-être l'envie d'écrire sur vos ascendants et sur ceux de votre conjoint?
Alors c'est une chose qui me trottait dans la tête depuis un moment, notamment parce que du côté de mon compagnon, on a la chance d'avoir tous ses grands-parents sont encore là, et depuis maintenant 15 ans, je les entends raconter leur vie, leur histoire, qui sont assez présentes dans les moments familiaux, et je me suis souvent dit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose, que je puisse les enregistrer. Et moi, je raconte aussi beaucoup les choses de ma famille. Et il y a eu une opportunité parce qu'une maison d'édition m'a proposé en fait de faire quelque chose qui ressemblerait au bouquin de Ta-Nehisi Coates, Between the World and Me, qui a été mal traduit en français, en tout cas le titre, Une colère noire, sur cette lettre qu'il écrit à son fils sur la matérialité et le fait de vivre dans un corps noir aux États-Unis. Et en fait, j'avais l'impression que c'était un peu décalé par rapport à ce que peut être, à la manière dont peut se décliner cette question dans le cas français. Et du coup, j'ai essayé de mettre sur papier, de faire une proposition de cette petite musique que j'avais dans la tête, d'histoire familiale. Et il me semblait que pour pouvoir comprendre les enjeux autour du racisme et de la racialisation aujourd'hui en France, il était important de passer par quelque chose qui aurait à voir avec l'histoire coloniale, que c'était assez essentiel, et que pour le coup, toutes les personnes auxquelles je pensais avaient à voir avec cette histoire coloniale. Donc c'est une partie de l'histoire qui m'a poussée à écrire ce livre.
Est-ce qu'il y avait aussi peut-être le désir de ne pas être forcément dans une écriture universitaire que vous pratiquez au quotidien et qui peut être un peu contraignante, qui doit être absolument référencée, pour opter pour quelque chose qui serait de l'ordre du récit et qui s'écrit différemment et qui se lit différemment, Audrey Célestine?
Absolument. Enfin, moi, c'est vraiment une réflexion que j'ai, que c'est une chose dont je discute pas mal avec quelques collègues depuis quelques années, à savoir qu'on travaille sur des enjeux qui sont des enjeux qui intéressent beaucoup de monde. On le voit quand on est interviewé par des journalistes, on le voit dans nos salles de cours également, la manière dont les étudiants réagissent à ce sur quoi on travaille. Et puis finalement, nos articles universitaires, académiques ne sont pas lus par grand monde. Et il me semble qu'il y a un vrai enjeu, que c'est important de continuer à avoir cette exigence qu'on peut avoir dans les articles universitaires et en même temps de pouvoir parler au plus grand nombre possible. Et du coup, avoir ce type d'écriture-là était important. Et d'ailleurs, dans l'autre livre que vous mentionnez, La fabrique des identités, j'ai un épilogue réflexif qui est en fait déjà sur ce mode-là, qui a été écrit avant Une famille française, et dans lequel je commence à... Cet épilogue s'appelle Les petits riens de l'identité, et c'est en fait une espèce de point de départ, voilà, de ce que je fais après dans Une famille française, avec cette idée que parler de ces petits riens, parler de vie quotidienne, parler de choses très concrètes, ça permet aussi de faire comprendre ces concepts qui peuvent être à la fois très complexes et puis qui en même temps peuvent être très incarnés si on décide d'adopter un type d'écriture ou d'approche. Donc oui, très clairement, il y avait cette volonté d'être dans un type de récit un peu différent.
Oui, et puis les concepts renvoient au fond au vécu des gens. Et d'ailleurs, je signale quand même qu'il y a quelques références, il y a quelques notes de bas de page dans Une famille française où effectivement, on peut aller voir d'autres auteurs. Alors dans votre ouvrage, Audrey Célestine, vous insistez, je trouve, d'une manière originale sur l'idée que l'identité serait aussi produite par les lieux et pas simplement par, pour le dire vite, la culture ou la religion. Est-ce que ça vous a frappé, vous, ce rôle des lieux dans la construction d'une identité individuelle, une identité collective ou familiale ?
Tout à fait. Enfin, pour le dire rapidement, j'ai toujours été marquée par le fait que notre rapport à nos familles et nos trajectoires familiales avec mon compagnon, parce qu'il s'agit aussi beaucoup de lui et de sa famille dans le livre, avait sans doute aussi beaucoup à voir avec le fait qu'on venait tous les deux de villes portuaires. On est de villes au bord de la mer, alors sauf pour la dernière génération qui est née à Paris. Mais on est de Dunkerque, de Fort-de-France, de Toulon, de Marseille, d'Alicante, d'Oran. Et que c'est de venir de ces lieux-là dans lesquels les échanges et les allées et venues sont anciens et permanents avait sans doute eu un impact sur la manière dont on envisageait la question de la migration et la question des identités. Et il me semble que le rapport au lieu, qu'il soit nostalgique ou pas, était quand même pour beaucoup dans la manière dont les gens pouvaient se construire et se raconter.
Alors en particulier les lieux de l'enfance, c'est-à-dire qu'il se joue quelque chose dans la mémoire de l'enfance, qui est une mémoire olfactive, qui est une mémoire de ce qui a été mangé, ça c'est structurant aussi, le lieu de cette manière-là.
Je pense qu'il est structurant. Alors déjà, à mon niveau, il est extrêmement structurant parce que je suis profondément marquée par le fait d'avoir grandi aux Antilles à un moment particulier. Et c'est quelque chose qui revient. Je me rends maintenant que j'ai beaucoup plus vécu hors de Martinique qu'en Martinique. Pour autant, ça reste mon lieu référence. Et c'est une chance. J'ai cette chance-là. Et j'ai également pu discuter avec des amis, des collègues dont les parents avaient pu vivre la migration, l'exil, etc., et qui n'avaient pas nécessairement ce lieu-là, qui était en France hexagonale, où ils devaient en permanence affirmer leur appartenance à l'endroit où ils avaient pourtant grandi. Et je me rendais compte que cette étape-là, moi, j'avais pas à la faire parce que j'étais ancré à un lieu qui était beaucoup plus lointain. Et voilà, donc ça fait un moment que je me dis que cette question de l'endroit où on est ancré, où on nous laisse être ancré, a de l'importance dans la manière dont on se construit.
Mais ce qui veut dire aussi qu'il se passe quelque chose quand on change de lieu, c'est-à-dire identitairement, il va falloir affirmer quelque chose ou subir un racisme qu'on n'avait pas l'habitude de subir. Il se joue quelque chose dans la transition.
Alors affirmer ou réaffirmer, ça dépend vraiment des types de trajectoires. Moi, il me semble que quand il y a un départ dans l'enfance où il y a encore beaucoup de choses à construire, il y a la possibilité de s'imprégner de ces lieux-là, ce qui est encore différent de quand on arrive qu'une fois qu'on est adulte. Mais effectivement, dans l'enfance, d'une des histoires que je raconte est celle de Minerva, qui est la grand-mère de mon compagnon, qui est celle qui a sans doute été dont la vie a été la plus sans doute perturbée, troublée par le fait de bouger, parce qu'elle était espagnole, qu'elle a été un moment apatride, qu'elle est devenue française, et que ce passage de l'un à l'autre a eu un impact extrêmement grand sur sa possibilité d'aller à l'école, sur sa possibilité d'accéder aux études, qui a eu un déclassement très important également, et que du coup, clairement, le passage d'un lieu à l'autre dans ce cas-là a eu une importance administrative, politique, sociale extrêmement forte.
J'ai été frappé dans votre ouvrage, Audrey Célestine, par l'impression de mouvement, de nomadisme familial permanent. Ça, c'est très frappant. C'est-à-dire que vous et votre conjoint, ça a bougé énormément. Alors, parfois volontairement, parfois poussé par l'économie, enfin les problèmes d'argent, les guerres. Mais il y a effectivement un nomadisme, un mouvement.
Il y a un mouvement qui est permanent, d'ailleurs très souvent en forme de boutade. J'explique que depuis qu'on se connaît, on est les seuls dans notre entourage à avoir des parents qui ont déménagé dans les 15 dernières années, et beaucoup de gens restent dans les mêmes lieux. Et en même temps, je trouve que c'est précisément le fait d'être passé par tout un tas de lieux qui fait que les histoires que je raconte dans le livre résonnent avec pas mal de gens, y compris. Vous savez, j'ai reçu un message vraiment très touchant d'une femme qui depuis 10 générations, viennent du même petit village du sud-ouest de la France, près de Montpellier, et qui s'était reconnue dans les histoires que je raconte, alors même que pour le coup, dans sa famille, il n'y a pas ce déplacement, il n'y a pas le mouvement. Mais justement, le passage de frontières, pas forcément nationales, mais de frontières sociales, notamment le déplacement qui a été extrêmement présent pendant ce siècle que je raconte dans le livre, permet, il me semble, que ces histoires que je raconte résonnent avec d'autres. Et c'était un peu l'objectif. Moi, j'avais l'impression de reconnaître dans la multitude de ces histoires de personnes qui parfois ne se sont jamais rencontrées, d'avoir des petites choses, des petits éléments qui permettraient à pas mal de gens de se reconnaître. Et voilà.
Non, il y a une histoire, effectivement, qu'on peut universaliser. On en redira un mot. Alors, on croise plein de personnages dans votre saga familiale qui sont tous très attachants et tous intéressants. Je voudrais qu'on évoque peut-être votre propre lignée. Par exemple, votre lignée maternelle, votre maman, Chantal, a une mère dunkerquoise et un père marin né à Marie-Galante. Elle vient aussi d'un milieu populaire. Il y a la question sociale. Parlez-nous un peu de cette lignée maternelle.
Alors la lignée maternelle, elle est assez marquante parce que c'est une lignée dans laquelle il y a plein de noms de famille. Enfin, les gens souvent ne s'appellent pas comme ils devraient s'appeler, mais bon, ça c'est, je pense, l'histoire en fait qui existe dans beaucoup de familles, sans forcément que ce soit dit. Donc ma mère est ce qu'on appelle une petite métisse, même si j'explique dans le livre pourquoi j'ai parfois des problèmes avec ce terme-là. Mais en tout cas, c'est sans doute celle qui a vécu de la manière la plus forte l'expérience de ce rouleau compresseur qu'est l'assignation raciale. C'est-à-dire qu'elle est née avec une maman blanche, un papa noir dans le Dunkerque des années 50, et que ça a été très dur. Et que ça a été très dur, et que les épisodes de l'enfance, sans savoir nécessairement d'où elle venait, sans véritablement comprendre pourquoi est-ce qu'elle changeait de nom à 7 ans, parce que sa mère, ma grand-mère, donc se marie ensuite avec un Kabyle, et donc elle a un nom,
Kebalali, lui donne son nom,
et donc elle passe comme ça d'un nom à l'autre, avec tous les stigmates qui vont avec le fait d'avoir un nom de famille algérien dans l'enfance, au début des années 60, dans le nord de la France. Et du coup, voilà, il y a une quête identitaire très très forte, qui est à la fois très située, qui correspond, voilà, les épisodes de racisme qu'elle peut rencontrer sont extrêmement situés dans le temps, et en même temps, moi j'ai l'impression qu'il y a des échos assez forts avec des choses qu'on peut avoir aujourd'hui. Je raconte dans le livre, par exemple, qu'elle prend à un moment le train pour aller voir Shaft à Lille, qui passe dans un cinéma à Lille, parce qu'il y a des Noirs dans un film, et qu'elle, elle se dit, bon bah voilà, ça va être super d'avoir un peu ce genre de référence, et que dans le débat public actuel, il y a beaucoup de choses sur cette question de la représentation dans les médias, dans les films, à la télé. Et moi, c'est des enjeux qui, à cause d'elle, ou grâce à elle, sont présent dans les discussions politiques de manière très forte. Et du coup, dans cette histoire individuelle-là, il y avait déjà l'embryon de tout un tas de débats publics qui sont extrêmement prégnants aujourd'hui. Et voilà, donc dans la quête identitaire de cette personne-là, qui a eu un gros impact puisque c'est ma maman, il y a quand même beaucoup de bouts, de débuts de recherche que j'ai pu ensuite mener de manière sans doute un peu plus apaisée qu'elle, précisément parce que j'avais un lieu assez fort dans lequel m'ancrer. Donc voilà, c'est pour moi une histoire. Son histoire est une histoire très française, celle du malaise identitaire de tout un tas de gens renvoyés à un ailleurs alors même qu'ils sont nés.
À Dunkerque. Mmh. Il y avait peut-être aussi alors l'idée, pour aller dans le sens de ce que vous dites, d'historiciser au fond dans votre propre famille des débats qui sont des débats très contemporains, mais qui méritaient justement d'être réancrés dans le temps et de dire la question identitaire aujourd'hui, ou des minorités, elle est beaucoup plus ancienne et elle a du sens, elle a travaillé des gens depuis 50 ans, 70 ans.
Tout à fait. très souvent cette impression qu'on réinvente, précisément parce que toutes ces questions étaient dans les colères, les interrogations, les inquiétudes maternelles depuis l'enfance. Enfin, voilà, elle est partie de Dunkerque vers la Martinique pour que ses filles, je la cite, grandissent avec des gens comme elle autour d'elle. Donc, du coup, avoir l'impression que certains débats sont très récents, pour moi, un peu un genre d'aberration, puisque précisément, ces enjeux, ces questions, ces malaises, ces interrogations, ces débats étaient présents pour elle, étaient présents pour tout un tas de gens également. Et renvoie au fait, ça c'est une chose, c'est un peu une tarte à la crème, mais que la France est aussi un pays d'immigration qui s'ignore, qui a l'impression qu'il y a des migrations qui sont toutes très, très récentes. Maintenant, il y a plusieurs vagues, entre guillemets, si le terme n'est pas le plus approprié, mais de migration avec des gens qui sont là depuis longtemps, dont les parents sont là depuis longtemps et qu'on renvoie, qu'on désigne comme des troisième générations, à partir de quel moment se termine le fait d'être une génération.
D'être originaire.
Voilà, originaire de...
Et vous dites, la France blanche est un mythe, enfin ça fait très longtemps que c'est une France, même si le mot vaut ce qu'il vaut, métissée, depuis 200 ans.
Tout à fait, et c'est vrai que quand on... En ce moment, sur ma table de chevet, il y a le livre collectif de Patrick Boucheron sur une histoire mondiale de la France, et c'est vrai que quand on lit une histoire mondiale de la France, on a quand même le sentiment que l'histoire de France est un petit peu plus complexe que ce qu'on essaye de nous vendre dans le débat public en général. Et voilà, à l'échelle d'un petit siècle, qui est le dernier, mais qui malgré tout, c'est pas juste le très contemporain, c'est une histoire d'un siècle. Et bon, on a des histoires qui sont un petit peu plus complexes, où la question raciale se pose déjà à d'autres moments, ne se pose pas de la même manière qu'aux États-Unis, mais qui malgré tout, dans les trajectoires individuelles, a un degré de violence parfois important.
Qui a pu être subi notamment dans l'enfance. On va écouter l'hymne officiel de la province de Jaén, pardon pour ma prononciation, qui a été composé par le poète Miguel Hernández durant la guerre d'Espagne, qui est interprété ici par le groupe Jarca.
Andaluces de Jaén, aceitunero altivo, decidme en el alma quién. ¿Quién levantó los olivos andaluces de Jaén?
No los levantó la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la
en el alma quien levantó los olivos andaluces de Jaén.
Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre nuestro hueso.
Jaén, levanta pedrada.
Estos olivos andaluces de Jaén, aceituneros altivos, pregunta mi alma de quién.
La valeur de l'homme, la famille comme lieu de mémoire, nous sommes en compagnie d'Audrey Célestine. Un mot peut-être sur ce morceau très prenant, cet hymne très prenant.
Oui, il renvoie précisément aux origines andalouses et puis à l'engagement aussi politique très présent dans la famille de Julien. C'est des gens qui étaient à la fois des paysans andalous qui ont fui la misère de l'Andalousie vers le nord de l'Afrique dans les années 20, les années 30, et puis des républicains, des anarchistes qui sont partis également au moment de la chute d'Alicante. Et cette histoire-là, cette histoire, ce rapport à la misère, aux classes populaires, à l'engagement politique, à la guerre civile espagnole, ça a été c'est un héritage très très fort dans la famille. Et voilà, ça c'est une chanson qu'on écoute depuis longtemps et que j'aime beaucoup parce qu'elle raconte beaucoup de choses.
Alors justement, dans la famille de votre conjoint, on apprend que, mais c'est aussi le cas dans la vôtre, qu'on se politise aussi et qu'on lit Marx, par exemple, voilà, qu'on va essayer de se forger une conscience, qu'il y a des communistes, il y a des anarchistes, vous venez de le dire. Est-ce qu'il y avait aussi chez vous, Audrey Célestine, une volonté de faire alors une histoire de la politisation populaire ou une histoire populaire de la France pour changer complètement l'échelle et de dire on va travailler sur des gens inconnus du grand public qui sont des gens que vous connaissez parce qu'il se joue aussi quelque chose de l'histoire de France dans ces histoires-là.
Oui, il se joue beaucoup de choses avec des gens au niveau de politisation qui sont très très divers, avec des personnes qui lisent Marx depuis trois générations, qui l'étudient, qui le discutent, pour qui ça guide véritablement un certain nombre de choix, de discussions, etc. Et puis et qui en même temps sont très à distance, par exemple, de la question raciale, de la question, ont un rapport à l'identité qui n'est pas du tout le même que les personnes qu'on va désigner comme des minorités en France, et puis d'autres personnes qui vont vivre la question de la racialisation de manière très forte, sans être particulièrement politisées par ailleurs, et que, voilà, il me semblait que rentrer dans le détail de ces histoires-là, de montrer à quel moment, finalement, certains enjeux interviennent, quand la question coloniale arrive dans une famille marxiste, dans les années 50, quand la question de l'ascension sociale, du rapport à l'école, du déclassement arrive dans une famille qui n'a jamais trop réfléchi à ces questions-là. Enfin voilà, moi c'est des enjeux qui m'intéressent parce que je suis politiste et puis qui me semblait que là encore, il ne s'agissait pas uniquement de faire une espèce d'histoire du racisme et de la racialisation, mais de faire aussi celle de du rapport à la classe, du rapport à l'école, du rapport aux politiques, d'avoir finalement une démarche qui soit réellement intersectionnelle. C'est un terme qu'on aime bien en ce moment, sans forcément le prendre vraiment au sérieux. Et j'avais envie d'essayer de voir comment tout cela pouvait s'imbriquer à travers l'exemple de plusieurs membres de ce qu'on pourrait désigner comme une famille française.
Parce qu'au fond, ici, l'intersectionnalité, il faut la prendre dans son sens littéral, c'est-à-dire le fait que les gens se pensent en même temps comme femmes, noires, blancs, venant d'un milieu social, et qu'au fond, le combat, il a porté sur tout, et pas sur un élément. C'est des gens qui ne se sont pas définis simplement par une identité raciale, mais qui ont eu une réflexion sociale.
Oui, tout à fait. Et puis c'est souvent des gens qui vont d'abord se savoir pauvres, par exemple, et puis vont se découvrir noirs à un moment donné de leur vie, parce que c'est pas un truc naturel, c'est pas un truc dans lequel on est. Il y a la découverte aussi de cela, qu'on est désigné d'une certaine manière, et puis on bouge, on est désigné autrement. Et que, oui, effectivement, quand on a tout un tas de débats sur la place de l'identité, l'identitarisme et le communautarisme en France aujourd'hui, on aplatit quand même beaucoup la manière dont les choses se font concrètement. Qu'est-ce qui est le point de départ de tout ça? Qu'est-ce qui est le point de départ de revendications qui vont être des revendications qu'on peut ne pas complètement comprendre? Revendications identitaires, la question de la non-mixité qui a un peu enflammé les réseaux sociaux et même l'Assemblée nationale l'année dernière et l'année précédente. Mais on aplatit en faisant comme si le discours actuel était le point de départ. Le point de départ, ce sont aussi tout un tas de trajectoires, de relégations, de mises à distance, et pas uniquement derrière l'identité, derrière les enjeux identitaires, il y a quand même beaucoup de choses qui se logent. Et c'était aussi ça, moi c'est un de mes petits dadas en recherche, d'essayer de comprendre ce dont l'identité est le nom finalement, dans des contextes particuliers.
Et au fond, l'identité ne se réduit pas à une assignation raciale ou une assignation de couleur. En tout cas, on voit bien que dans votre famille, par exemple, c'est pas quelque chose qui a été... Il y a une expérience du racisme, mais on ne se définit pas uniquement comme ça, et en particulier, on ne se définit pas uniquement par rapport à la haine de l'autre ou à l'assignation de l'autre.
Exactement. Et ça, je pense que c'est à la fois l'un des points de débat au sein même du mouvement antiraciste, et puis qui en même temps renvoie peut-être à ce que je pourrais désigner comme une sorte de petit privilège antillais, qui est le fait d'avoir grandi aux Antilles, d'avoir grandi dans le pays d'Aimé Césaire et d'avoir grandi dans un endroit où finalement il y a eu tout un travail politique, de définition positive, de choses qui au départ sont uniquement des catégories d'assignation et de domination, et de se dire, bah, finalement, il y a aussi une culture qu'on pourrait désigner comme une culture noire, une culture nègre, même si c'est extrêmement situé, mais bon, toute cette chose des arts nègres, etc. Et du coup, de ne pas du tout se voir uniquement comme le résultat d'une assignation, mais d'abord comme le produit d'une culture, d'un lieu qui est extrêmement riche, qui a quand même produit tout un tas d'écrivains, de poètes, de musiciens fantastiques. Et mais le problème, c'est que tout un tas de gens sont renvoyés à cette assignation et n'ont pas forcément les outils. Je parle beaucoup d'outils et d'armes miraculeuses, pour reprendre les termes de Césaire, n'ont pas ces armes-là pour pouvoir se construire et se tenir droit dans leurs bottes. Et du coup, on a que cette espèce d'assignation raciale, et du coup c'est effectivement un peu compliqué de se construire comme cela quand on n'est jamais considéré comme étant complètement français et qu'on n'a pas les armes pour se dire bon, mais j'ai une véritable humanité, et on en est quand même là pour beaucoup de gamins dans ce pays.
Vous dites quand même, en Martinique, hein, vous écrivez, le métissage a été tissé de larmes et de sang. C'est-à-dire que c'est quand même, c'est pas évident, même si on est dans un relatif entre soi, il y a quand même, il se joue quelque
mais
chose.
Mais c'est une société qui est extrêmement clivée. Et puis c'est une société qui est quand même issue d'une histoire extrêmement violente, qui est l'histoire de l'esclavage, de divisions socio-raciales extrêmement fortes. Et moi, j'ai eu la chance de grandir aux Antilles dans les années 80, c'est-à-dire au moment où il y a le résultat politique d'un certain nombre d'actions culturelles, etc., de revalorisation du créole, de toutes ces choses-là qui n'existent pas avant, où les hiérarchies raciales sont très très fortes. Donc c'est pas du tout un endroit, c'est un endroit où il y a énormément d'inégalités, où il y a énormément de problèmes, mais voilà, j'ai pu me loger dans une espèce de petit interstice qui me permettait pour le coup de pouvoir en tirer un véritable bénéfice.
On vous sent très sceptique, Audrey Célestine, sur ce que vous appelez le bric-à-brac identitaire, l'essentialisme stratégique, c'est-à-dire je vous cite encore, cette idée qu'on va uniquement se revendiquer d'une identité raciale et se politiser uniquement dans cette identité raciale-là. Pour vous, c'est extrêmement réducteur, au fond. Et ce que vous montrez dans votre ouvrage, c'est que si on prend les familles sur plusieurs générations et qu'on historicise, c'est une identité parmi d'autres à un moment, c'est un phénomène historique, mais ça ne dit pas profondément les individus.
Le problème, c'est que ça dit à la fois beaucoup de l'expérience telle qu'elle peut être vécue ici, et en même temps, ça aplatit, comme je le disais, beaucoup ce que sont les gens, ce que sont les gens et leurs familles, et la complexité de ce qu'ils sont. Alors après, on peut comprendre que dans le cadre d'une mobilisation, faut un peu durcir le trait.
On va jouer sur ça beaucoup.
Sur un aspect, pour moi, il me semble qu'il s'agit là d'une impasse politique. Si on tire le fil jusqu'au bout, on ne peut pas gagner à durcir une catégorie qui est au départ une catégorie de domination. Enfin, c'est vraiment une question qui moi me semble centrale dans le mouvement antiraciste aujourd'hui. Et en même temps, moi j'ai pas du tout envie d'être dans la condamnation de la manière dont se politisent un certain nombre de groupes aujourd'hui, parce qu'ils font avec ce qu'ils peuvent et avec les moyens qui sont donnés ici. Mais il me semble que dans la discussion théorique et politique qu'il doit y avoir dans le mouvement antiraciste, il y a vraiment une nécessité à considérer l'ensemble de ces choses-là, du fait que réduire à un seul élément fera qu'on ne pourra pas avoir un mouvement antiraciste de masse si on n'arrive pas à englober de manière un peu plus forte la complexité de ce que sont les gens.
Y compris la question sociale, enfin, qui reste centrale.
Oui, bien sûr, et qui pour moi est complètement imbriquée dans tout cela, précisément parce que, mais là aussi, je viens d'un endroit où tout un tas de Noirs sont en haut de l'échelle sociale,
dominant,
donc du coup sont des dominants, donc oui. C'est effectivement, ça change aussi la manière de voir les choses. Mais je pense que ça fait partie des chantiers. Des chantiers politiques, des chantiers à la fois politiques et théoriques sur ces enjeux-là.
On va achever cette émission sur ces mots. Merci beaucoup, Audrey Célestine, d'être venue. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Une famille française des Antilles à Dunkerque en passant par l'Algérie aux éditions textuelles. C'est sorti donc cette année en 2018. Merci à Rémi, à la technique. Cette émission sera très vite en podcast sur le site de Fréquence Protestante. Bonne rentrée et à bientôt.